Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Nous sommes le 7 mai 1964 à Manchester. Malgré la pluie, 200 spectateurs chanceux avec des tickets et tout autant d'opportunistes qui n'en ont pas se pressent sur le quai de la gare désaffectée de Wilbraham Road, alors que sur le quai opposé, les techniciens s'affairent encore pour finir d'installer la scène sur laquelle les artistes vont se produire dans quelques minutes. Pour l'occasion, c'est un véritable décor qui a été construit avec ses tonneaux, ses charrettes en bois, ses affiches qui rappellent l'atmosphère du sud des États-Unis. Et ce n'est pas un hasard. Ce soir-là, c'est l'Amérique et son blues qui s'invitent en Angleterre. C'est la deuxième fois que la tournée American Blues and Gospel Caravan s'arrête dans la ville britannique où la musique afro-américaine s'est déjà fait une place. Là-bas, on écoute du jazz, du blues, du R&B, comme bientôt partout dans le pays. L'année précédente, Eric Clapton, Jeff Beck, mais aussi Keith Richards et Brian Jones, membres des Rolling Stones, sont venus depuis Londres assister à l'unique représentation britannique du American Blues and Gospel Caravan. Cette année, un autre des Rolling Stones, Mick Jagger, a fait le déplacement, tout comme Jimmy Page, des fous de blues et des curieux aussi, venu assister à ce concert d'exception imaginé par Johnny Hamp et capté pour la télévision. Et le producteur de Granada TV a eu le nez creux car lors de sa diffusion le 19 août de la même année, le concert était suivi par quelques 10 millions de spectateurs. Sur scène, le show démarre et les légendes se succèdent. On écoute les Muddy Waters, Cousin Joe, Otis Spann, Sonny Terry et Brownie McGee. Et une femme guitariste, chose encore remarquable, fait son entrée. Elle descend d'une voiture à cheval, juchée sur ses hauts talons, vêtue d'un long manteau blanc au col serti de diamants, et rejoint l'orchestre d'un pas dansant au bras de Cousin Joe. Chanteuse à la voix de soprano, elle éblouit le public sous la pluie en jouant des distorsions de sa guitare électrique. Elle ouvre avec sa chanson qui tombe à pic, « Didn't it rain ?» n'a-t-il pas plu ? C'est qu'en voyant la tempête qui s'abattait sur la gare, elle a aussitôt demandé à Johnny Hamp si elle pouvait changer sa chanson d'ouverture pour celle-là. Un sens de l'à-propos dont elle usera tout au long de sa carrière. Elle, c'est Sister Rosetta Tharp et c'est son destin que je vous raconte cet après-midi. Lorsque ce concert est donné à Manchester, la popularité du blues et du gospel a déjà faibli aux États-Unis qui ont succombé aux sirènes du label Motown avec ses groupes et ses artistes au son résolument pop, même s'ils gardent un lien avec le gospel dans les rythmes et le chant. En Angleterre, en revanche, on les découvre donc avec un temps de retard et on tombe vite amoureux de ces artistes iconiques qui, à travers leur musique, racontent une dure réalité à un public britannique qui n'en percevait jusqu'ici que des échos. Car si à cette époque, en Europe, ces musiciens noirs n'ont pas à s'asseoir dans différents wagons de train ni à manger dans d'autres restaurants que les blancs, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Car oui, la ségrégation ne prendra légalement fin aux États-Unis qu'en 1968, après des années de lutte. Cette ségrégation, Rosetta Nubbin, son premier nom, la vit dès sa naissance en mars 1915 dans l'Arkansas, un état du Sud, alors qu'elle se retrouve vite seule avec sa mère, Cathy Bell Nubbin, qui s'est engagée dans la secte protestante de l'Église sanctifiée. En effet, après des années à travailler comme domestique en parallèle de ses activités pour la congrégation, elle parvient finalement à gagner sa vie comme évangéliste. Mère et fille traversent alors le pays jusqu'à Chicago, en passant par Memphis. C'est dans l'église pentecôtiste de la ville de King Elvis, qui ne l'est pas encore, que Rosetta s'initie à la musique alors qu'elle n'est que fillette. Elle pianote sur l'harmonium dont joue sa mère et se met à chanter sans qu'on le lui apprenne. Impressionnée par son beau-frère, qui joue de la guitare avec un goulot de bouteille en guise de médiator, elle s'y met aussi et en fait son instrument de prédilection. D'église en église, la petite Rosetta se fait les dents, plutôt la main. Dans les revival shows qui visent à recruter de nouveaux fidèles, elle acquiert un réel sens du timing dans des performances improvisées avec un prêcheur. C'est là son sens de l'à-propos, sa capacité à cerner un auditoire et à s'emparer de son cœur. Soliste face au public, Rosetta interpelle la foule dans un style énergique, typique de son église, car à l'époque, d'autres privilégient un chant plus lent, toutes n'autorisent pas la guitare et bien peu encouragent les femmes à prendre une place de premier plan dans la congrégation. Avec le krach boursier de 1929 et la crise économique qui s'ensuit, la famine, les tempêtes de poussière du Dust Bowl, les Américains se tournent pour beaucoup vers la religion. Beaucoup, mais en particulier la diaspora noire, où le gospel prend de l'ampleur et se diffuse hors de sa communauté d'origine. Après des années à rester dans l'ombre des hommes, les femmes trouvent peu à peu leur place dans cet univers musical et les projecteurs se braquent définitivement sur elles dans les années 1940. Outre Rosetta, apparaissent aussi Mahalia Jackson ou Dinah Washington, qui deviendront aussi deux grandes dames du gospel, ou encore Sarah Vaughan, qui a également fait sa formation musicale dans ce contexte religieux. Les femmes musiciennes de l'époque sont ainsi des pionnières qui créent des vocations pour les décennies à venir. Sa vocation, Rosetta, elle l'attribue carrément à Dieu. Dieu et peut-être d'autres femmes. La pianiste et chanteuse de gospel aveugle, Orizona Drains, qui, influencée par le ragtime, frappe son instrument et fait corps avec lui. La jeune Rosetta est fortement marquée par l'intensité de sa performance lorsqu'elle la voit jouer à l'église. Mais la femme qui compte le plus pour Rosetta, c'est sa mère. Cathy Bell Nubbin encourage sa fille à développer ses talents musicaux et la traite comme un petit prodige. Ensemble, elles font des tournées de prêches et de musique. D'ailleurs, même après son mariage en 1934, Rosetta continue de se produire avec sa mère sur les routes et vivra avec elle la plus grande partie de sa vie. Son mari accompagne le duo mère-fille qui gratte mandoline et guitare avec un modeste ukulélé. Il s'appelle Thomas G. Thorpe. Ce jeune pasteur se serait attaché à Rosetta car ses talents pouvaient potentiellement lui faire de la publicité. C'est elle qui va se faire un nom avec le sien, Rosetta Thorpe. Un nom qu'elle garde quand elle se débarrasse de Thomas en 1937. Elle n'obtient le divorce qu'en 1943, au moment où elle épouse son second mari. À la fin des années 1930, il est temps pour Rosetta Thorpe de prendre son envol. Elle décide d'aller dans le monde, c'est-à-dire de chanter dans des nightclubs, ce qui est à l'époque très mal vu dans sa communauté religieuse. Sa mère n'approuve pas, mais qu'importe. Quand elle performe dans les clubs malfamés où l'on fume et on boit, elle prend alors le nom de Rosetta Vashti Thorpe. Vashti est un personnage de l'Ancien Testament. C'est l'épouse du roi Assuérus qui la répudie lorsqu'elle refuse de paraître à un banquet. Cette désobéissance, Rosetta Thorpe s'en empare et l'incarne alors. Elle rejette les injonctions de l'Église, de sa mère et de son mari. Rosetta Thorpe doit son talent à Dieu. Il faut bien qu'elle l'exerce. Et puis, le Seigneur est du genre à tout lui pardonner. Un état d'esprit qui explique à la fois ses frasques et sa foi. Dans les nightclubs, Rosetta Thorpe est vite repérée et auditionnée pour chanter au fameux Cotton Club de Harlem à New York. Là-bas, des musiciens noirs y jouent pour un public exclusivement blanc. Dans la revue de la star Cab Calloway, Rosetta se produit seule avec sa guitare dans des robes à sequins et des perruques colorées qui contrastent avec les thématiques religieuses de ses chansons. C'est à cette époque qu'elle prend le nom de scène de Sister Thorpe, qui deviendra Sister Rosetta Thorpe. Le succès va grandissant et on commence à parler d'elle dans les journaux, qui la comparent notamment à la chanteuse Bessie Smith, hélas décédée dans un accident de voiture au moment même où Sister Rosetta Thorpe prend son envol. Inspirée de Ma Rainey, la mère du blues, Bessie Smith était l'impératrice du blues. Ce courant musical a les mêmes racines que le gospel de Rosetta Thorpe, c'est-à-dire les chants d'esclaves, mais le blues et le gospel que Rosetta Thorpe concilie dans sa musique, ce sont deux forces musicales qui s'opposent et se complètent. Ces deux courants témoignent néanmoins de la souffrance et des espoirs des diasporas afro-américaines qui ne trouvent de réconfort que dans leur communauté. La toujours religieuse Rosetta Thorpe pose en 1938 dans une robe très modeste pour le photographe officiel du Cotton Club. Comparée aux autres artistes qui s'y produisent, elle a l'allure d'une paroissienne. Seul son maquillage léger, ses sourcils épilés auraient été mal regardés par les fidèles de l'église sanctifiée. Sur ce portrait, qui est sans doute son plus connu, elle tient sa guitare, rendant son image indissociable de cet instrument dont elle joue avec une virtuosité qui va en inspirer plus d'un, de Little Richard à Chuck Berry, pour finir par Elvis Presley, évidemment. La même année, Rosetta Tharpe est approchée par la maison de disques Decca. Elle signe avec G. Mayo Williams, responsable du catalogue Race, d'un label encore divisé entre noir et blanc. Armée de sa guitare, Sister Rosetta Tharpe enregistre d'un trait quatre chansons qui connaîtront un immense succès. À la croisée des scènes, elle interprète Rock Me, chanson du père du gospel Thomas A. Dorsey, qui a notamment composé Precious Lord, la chanson préférée du révérend Martin Luther King. Ce premier titre est donc suivi de trois autres chansons qui brouillent les frontières entre musique profane et religieuse, avec That's All, blues qui célèbre la religion, et My Man and I, un gospel qui célèbre son homme. Rosetta Tharpe semble ne rentrer dans aucune case. Insaisissable, elle touche à tout et produit des mélanges musicaux inédits. Sur scène, elle est courtisée par d'autres salles et se produit hors du Cotton Club, entourée des plus grands. Le 23 décembre 1938, elle participe au concert historique From Spirituals to Swing, du spirituel au swing, un bon résumé de sa carrière. Organisé dans le Carnegie Hall de New York, le mythique temple de la musique classique, le show fait la démonstration de toute la puissance de la musique afro-américaine de l'époque devant un public de blancs qui, pour certains, en écoute pour la première fois. Sister Rosetta Tharpe reprend les enregistrements en janvier. Elle y développe son jeu de guitare avec des solos improvisés et chante notamment This Train, ce train qui évoque un voyage religieux. Un train que l'on retrouvera bien des fois dans sa carrière, notamment dans cette gare désaffectée de Manchester, plus de 20 ans plus tard. En parallèle de cette carrière, Rosetta Tharpe continue d'animer les messes du dimanche. Ses activités ont beau déplaire à sa mère et à sa paroisse, personne ne peut vraiment lui résister quand elle a sa guitare à la main. À la fermeture du Cotton Club en 1940, elle repart en tournée avec Cab Calloway, puis elle revient à New York au Greenwich Village où elle joue de la guitare électrique pour un public où se mêlent enfin les Noirs et les Blancs. L'année d'après, elle travaille avec Lucky Millinder, chef d'orchestre qui dirige un big band à succès. Rosetta Tharpe dirige tous ses musiciens comme à l'église et mène le public par le bout du nez avec son assurance et son charme. La chanteuse d'orchestre prêche le profane et ça marche. Elle enregistre des disques avec l'orchestre qui donne une nouvelle ampleur à sa musique. Et elle se hisse à la 20e place du Harlem Hit Parade avec la chanson Shout, Sister Shout, Crie, ma sœur, crie, un ordre qu'on lui donne sans doute partout où elle va, car le public veut l'entendre crier. Rosetta Tharpe s'est fait un nom. Elle peut se permettre de quitter l'orchestre de Lucky Millinder, le travail ne manque pas. On la sollicite même pour les V-Disc, Victory Disc ou Disque de la Victoire, enregistrés pour soutenir le moral des troupes américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle est au sommet de sa gloire, mais sa carrière est loin d'être terminée. En 1945, sort le plus grand hit de Rosetta Tharpe. Il s'agit de la chanson « Strange Things Happening Every Day ». Des choses étranges se produisent chaque jour qui mettent en évidence l'hypocrisie des prêcheurs. Il s'agit pour beaucoup du premier titre rock'n'roll de l'histoire. La guitare de Sister Rosetta Tharpe ouvre la chanson avec énergie avant d'être rejointe par le piano boogie de Sammy Price. Le pianiste enregistrera avec elle jusqu'au milieu des années 1950. Mais même si leur collaboration est musicalement superbe, Sammy Price n'aime pas travailler avec Rosetta Tharpe. Pour lui, son jeu autodidacte est difficile à apprivoiser. À le croire, elle accorde sa guitare bizarrement et ne chante pas dans les bonnes tonalités. Il refuse d'abord de l'accompagner avant de se laisser convaincre par une rallonge financière. Et lui convainc en retour la musicienne d'utiliser un capot qui raccourcit les cordes de sa guitare et qui leur permet enfin de s'accorder. À cette période-là, Sister Rosetta Tharpe fait une deuxième rencontre musicale d'importance en la personne de Mary Knight. Elle a l'occasion de l'entendre à un concert où la contralto déploie toute la force et la souplesse de son timbre. Impressionnée, Rosetta comprend tout de suite que cette voix grave s'associerait très bien avec la sienne. Elles répètent ensemble, puis auditionnent chez Decca. Leur succès est immédiat et on les surnomme « The Saint and the Thinner », la sainte Rosetta et la pécheresse Marie, qui a déjà deux enfants et comme Rosetta divorce pour mener sa carrière de chanteuse. Si aucune d'entre elles n'a jamais confirmé une possible liaison, on soupçonne vite les deux femmes d'être plus que des amies, ce qui est très mal vu par l'Église. En dehors, des chanteuses de blues ont affirmé publiquement leur bisexualité comme Ma Rainey, Bessie Smith et Big Mama Thornton, dont Elvis reprendra la chanson Hound Dog. Mais dans l'Église, ces choses-là se font plus discrètement. Toujours est-il que Rosetta Tharpe s'installe en 1948 dans une grande maison à Richmond, non pas avec son second mari dont elle divorce en 1947, mais avec Mary Knight et sa mère qui ne la quitte jamais vraiment. Katie Bell Nevin et Rosetta Tharpe enregistrent d'ailleurs plusieurs duos à partir de 1949. Quant aux deux Saint and Sinner, elles sont séparées par la tragédie. En pleine tournée, Mary Knight apprend par télégramme que sa mère et ses deux enfants ont péri dans un incendie. La tournée s'interrompt et leur collaboration aussi, même si elles restent amies jusqu'à ce que la mort les sépare. Rosetta poursuit les enregistrements et les concerts. Elle embauche bientôt des choristes qu'elle nomme les Rosettes. Ces jeunes filles, entre 16 et 20 ans, sont chaperonnées par la mère de Rosetta Tharpe et l'accompagnent sur toutes les scènes où elle se produit. En 1949, Rosetta Tharpe fait la connaissance des frères Feld, Irvin et Israel qui promeuvent avec succès la musique gospel dans la région de Washington, D.C. Elle leur propose un deal. Ils acceptent de collaborer et réfléchissent à ce qui pourrait faire parler d'elle alors que sa concurrente, la chanteuse gospel Mahalia Jackson, jouit d'une plus grande popularité. Ils pensent à ses pasteurs qui donnent des choses spectaculaires, mêlant feux d'artifice, histoire de la Bible racontée en chansons et baptême. Voilà qui pourrait coller avec Rosetta Tharpe, toujours à mi-chemin du religieux et du profane. Mais ce qui lui irait le mieux, c'est un mariage. Les frères Feld imaginent un immense show payant où la mariée donnerait un spectacle pendant la cérémonie. Rosetta Tharpe accepte, reste à trouver le mari, ce qui ne lui prend pas plus de 7 mois. À 35 ans, elle jette son dévolu sur Russell Morrison, un beau jeune homme de 2 ans son cadet. Pas musicien, mais attiré par le jazz, il est assistant du groupe The Ink Spots quand elle le rencontre en tournée. Ce mariage, comme les deux précédents, est une alliance opportuniste pour le mari qui, en devenant manager, vit bientôt des cachets de sa femme. Leur concert mariage a lieu au Griffin Stadium. Si Janis Joplin est créditée comme la première femme américaine rockeuse de stade, c'est que le mariage de Sister Rosetta Tharpe a été oublié. Pourtant, ce sont plus de 20 000 personnes qui y assistent le 3 juillet 1951. Pour l'occasion, Rosetta Tharpe revêt une robe à $800 du grand magasin Tallyhimmers, lieu où les Noirs n'ont pas le droit de faire leurs courses à l'époque. Elle y a été arrêtée quelques années plus tôt en voulant acheter un manteau de fourrure. Ce jour-là, elle est assez célèbre pour qu'on fasse une exception. Sur scène, les musiciens jouent les invités, Mary Knight et les Rosettes sont-elles demoiselles d'honneur. La cérémonie n'est pas un simulacre, mais le public s'amuse follement, surtout quand les choses sérieuses commencent et que Sister Rosetta Tharpe saisit sa guitare, toujours vêtue de sa robe de mariée, mettant littéralement le feu au stade. Et cela, bien avant les Beatles ou Beyoncé. Malgré ce triomphe, Sister Rosetta Tharpe n'a plus le même succès qu'auparavant. Ses disques se vendent moins et sa rivale Mahalia Jackson prend la première place de chanteuse gospel. Mais un autre public commence alors à manifester de l'intérêt pour elle, et c'est en Europe qu'il se trouve. C'est chez les Britanniques que Rosetta Tharpe fait ses premières scènes européennes en 1957, puis viennent les Espagnols et les Français. En janvier 1958, à l'Alhambra, le célèbre music hall de la capitale, où elle fait la première partie de Charles Trenet, elle conquiert un public profane et parisien avec ses chansons religieuses. Encore une fois, nul ne lui résiste et elle donne de nombreux concerts en France jusqu'à la fin de sa vie. Si elle n'a plus le même succès qu'aux décennies précédentes, dans les années 60, Sister Rosetta Tharpe continue d'enregistrer de nombreux titres et présente à deux occasions l'émission Gospel Time diffusée sur NBC, le premier programme avec des présentateurs et artistes exclusivement noirs. Mais sa santé décline. En 1970, Sister Rosetta Tharpe est contrainte d'abandonner sa tournée en Europe après un accident cardiaque en Suisse, 3 jours après son passage à la salle Pleyel à Paris. On lui diagnostique un diabète dont elle ne s'occupe pas. En effet, Dans les États-Unis racistes, où jusqu'il y a peu les hôpitaux des Blancs n'acceptaient pas les patients noirs, on n'encourage pas les femmes noires à s'occuper de leur santé. Qui plus est, dans l'église sanctifiée, c'est Dieu qui soigne, pas les médecins. Sa santé s'aggrave au point qu'on doive lui amputer une jambe. Un coup au moral qu'elle cache en poursuivant les shows, poussé par son mari manager Russell Morrison, que certains accusent de l'exploiter, alors qu'elle devrait se reposer. Le 9 octobre 1973, alors qu'elle devait enregistrer un dernier disque, Sister Rosetta Tharpe a un second accident cardiaque qui lui est cette fois fatal. Elle avait 58 ans. C'est Mary Knight qui s'occupe de coiffer et habiller sa vieille amie pour ses funérailles. Elle insiste également pour que Rosetta Tharpe soit enterrée avec sa guitare. C'est sans compter Russell Morrison qui, en perdant son épouse, a perdu sa source de revenus et qui revend l'instrument sans aucun état d'âme. Au cimetière de Philadelphie, où Rosetta Tharpe est enterrée, on peut aujourd'hui voir une petite pierre tombale en granit rose, financée en 2008 grâce à un concert organisé par des fans. Mais pendant des années, il n'y avait rien là où elle est enterrée, à l'image de sa disparition de la mémoire collective. Inclassable, touchant au blues, au gospel, au rhythm and blues, au jazz, aux ballades populaires, à la country, au rock and roll, Sister Rosetta Tharpe a longtemps été ignorée de l'histoire musicale. Son apport est heureusement peu à peu reconnu et elle entre au Rock and Roll Hall of Fame en 2018. La rebelle inventrice du rock and roll a ouvert de nombreuses portes et sur les rails de son train gospel, des artistes innombrables suivent désormais la voie qu'elle a tracée.